you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
I'm representing for the gangsters all across the world. Still.
Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on rembobine nos cassettes et on vous raconte l'histoire d'un disque qui a marqué nos années 90. Dans cet épisode, on va vous parler des Red Hot Chili Peppers, le groupe de rock le plus cool de la côte ouest. Après le succès de Mother's Milk, le groupe s'enferme plusieurs semaines pour accoucher d'un tout nouveau son en septembre 91, Blood Sugar Sex Magik. C'est un funk bien lourd, une fusion métal et hip-hop qui va rapidement séduire la terre entière. Les lignes mélodiques sont impeccables, l'album explore une palette d'émotions beaucoup plus vaste que ses prédécesseurs, de Give It Away à Under the Bridge en passant par Breaking the Girl ou Suck My Kiss. L'album devient disque d'or en 2 mois à peine et va durablement marquer les esprits. Il va aussi lancer définitivement la carrière des Red Hot et les propulser au rang de mégastars internationales. Blood Sugar, Sex Magik, on en parle tout de suite maintenant avec le Radio Cassette Chili Crew, Fanny.
Salut.
Grégoire.
Hola, chicanos.
Et Olivia.
Salut.
Alors, Olivia, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Alors, je vais vous parler de Nirvana, tout à fait.
J'adore.
Yeah. Et de Sabotage.
Ok.
Ça a l'air super intéressant.
Grégoire, où est-ce que tu vas nous emmener?
Alors moi, je vais vous emmener dans un manoir hanté, évidemment. Et surtout, je vais vous décortiquer Give It Away. Vous allez voir, c'est pas piqué des
années. On a hâte.
Ouais. Ok, et on retrouvera Fanny en fin d'émission.
Et ben moi, pour la X millième fois depuis le début de Radio Cassette, je vous parlerai d'un clip qui se passe dans le désert. The place to be dans les 90s.
Yes, alors on va commencer par se réécouter l'album en mode Fast and Furious. C'est parti.
We'll be right back.
Voilà pour les 17 titres de Blood Sugar Sex Magik. C'est donc le cinquième album des Red Hot. Il sort le 24 septembre 1991 en compact disque, cassette vinyle et mini disque sur le label Warner. Le 24 septembre 91, c'est une sacrée date à retenir en fait, parce que deux véritables bombes vont se retrouver le même jour sur les présentoirs de tous les bons disquaires, Blood Sugar Sex Magik des Red Hot et le Nevermind de Nirvana.
C'est bon, j'ai même pas eu à parler de Nirvana, vous l'avez fait tout seul.
91, c'est aussi une grosse année pour le rock avec le Black Album de Metallica, Use Your Illusion de Guns N' Roses et le Out of Time de REM. La France, elle, n'est pas en reste et consacre Elmer Footbeat, groupe de l'année aux victoires de la musique.
C'est une blague.
Ouais, c'est une blague. C'est un peu une blague. Voilà, c'est
deux points de mesure. On a la musique qu'on mérite, j'ai envie de dire.
Oh, pavé dans la mare.
Poupou. 91 est également marqué par la guerre du Golfe, la traversée à la rame de Gérard Dabolville, la sortie au cinéma de Terminator 2 et mon entrée en CE1. J'avais 6 ans, les gars.
t'étais un peu en avance,
c'est
non?
C'est chaud.
J'étais un peu... J'étais bien. Ouais. J'étais bien dans mes baskets. Ouais, ouais. Non, non, là-dessus, on était bien. On va commencer par faire un petit tour de table. Alors, ça vous rappelle quoi, les Red Hot? On va commencer par toi, Olivia.
Alors écoute, moi j'ai pas de souvenirs précis, n'en déplaise à notre ami Greg. D'habitude, tu me reproches d'avoir des souvenirs ultra précis. Alors moi j'ai pas de souvenirs précis, en revanche je peux te dire deux choses sur les Red Hot. La première, c'est que longtemps j'ai pensé qu'Anthony Kiedis était en fait Iggy Pop, puisqu'il est tout le temps à poil et qu'il a les cheveux longs. Pas mal, voilà. Et l'autre chose que je peux te dire, c'est que c'est, je pense, le groupe dont j'ai le plus massacré en yaourt les paroles en anglais. Ça c'est évident, je ne sais pas ce que je chante toujours à l'heure actuelle.
Ok, voilà. Bah on pourra faire un test tout à l'heure.
Si tu veux.
Grégoire.
Alors moi je suis très très fan de cet album, je le réclame à Manu, je dis mais qu'on fasse s'il te plaît les Red Hot sur Radio Cassette, donc les je les tanne depuis des mois et des mois. Donc,
deux ans,
c'est ton épisode.
Deux ans en fait. Voilà. Donc autant vous dire qu'évidemment j'ai écouté à l'époque, alors peut-être pas en 91 mais quelques années plus tard. Je l'ai beaucoup joué à la guitare. J'avais le... Alors j'ai plusieurs anecdotes en fait.
Ok, t'as 10 minutes.
Petit 1.
L'album de partition, en fait, c'était un truc qui se faisait. C'est vrai que maintenant, avec Internet, ça se fait moins. Mais en gros, t'as toutes les partitions de l'album. Et donc, pour moi, c'était la Bible, quoi. J'avais toutes ces partitions à travailler. Je me rappelle, j'avais caché toutes mes mauvaises notes à l'intérieur. Parce que du coup, c'était une cache idéale. Donc, tous mes zéros en dictée, je les avais cachés. Et mon père, il les avait trouvés.
Oh
et
là
je m'étais
là
fait défoncer.
Et c'était, attends, les partitions pile de Blood Sugar Sex Magik?
Ouais, c'est ça.
Ah ouais,
de tout l'album.
Trop bien.
Et je dois encore l'avoir. Je pense que c'est comme un livre.
Trop
fait,
cool. Oui,
un
oui.
Livre de partitions.
Merci, je vois ce que
voilà,
c'est.
Voilà, tu vois ce que c'est. Et l'autre anecdote, c'était que j'apprenais tout l'album, j'apprenais tout cet album à la guitare avec mon prof de l'époque, qui s'appelait Pierre-Antoine. Je pense qu'il fumait pas mal de weed, Pierre-Antoine. c'est un album qui est très intéressant rythmiquement à travailler. Voilà, c'est assez funky. Et voilà, j'adorais cette musique.
Il était cool, Pierre-Antoine.
Et Pierre-Antoine était hyper
ouais,
cool.
C'est mieux que Jeux Interdits.
Et on apprenait, on apprenait Funky Monks, Suck My Kiss. Et voilà, j'ai des souvenirs de sessions, de cours de guitare avec Pierre-Antoine autour de cet album. Voilà, beaucoup d'émotions.
Tu penses qu'il nous écoute peut-être?
C'est mignon.
J'espère.
Bisous, Pierre.
Bisous, Pierre.
Et toi, Fanny, alors, qu'est-ce que ça t'évoque?
Moi, les Red Hot, j'ai découvert en 98, et vous allez me jeter des pierres pour dire ça. J'ai découvert avec Under the Bridge, chanté par les All Saints.
Voilà, mais j'en étais tellement sûr.
La, la, la.
À la blague.
En même temps, pour une fan de Whitney Houston, c'est pas trop étonnant.
Et donc, ouais, 98 All Saints, j'ai mis très très longtemps avant de découvrir que c'était en fait une chanson des Red Hot. Et par contre, les Red Hot, je me suis mise à écouter juste après, en 99, quand est sorti l'album Californication. Pour moi, c'est vraiment le son du collège et du lycée, et que j'ai jamais écouté après. Et mais donc, Californication et By the Way, sorti en 2002, j'ai beaucoup écouté. Je l'avais ça dans mes compiles sur, vous vous rappelez, les petits lecteurs clés USB MP3, là.
Ah ouais, ouais,
je téléchargeais tout sur LimeWire ou Napster, et je faisais mes petites compiles avec les Red Hot.
Bon, c'est pas bien de pirater, hein. Franchement. Alors, moi, je me souviens de mon agenda. Voilà, j'avais à l'époque, je customisais mes agendas, c'était vraiment comme ma chambre.
Ouais.
Alors, c'était pas au Tipex, j'avais fait une couverture par-dessus, j'avais réécrit, en fait, c'était que du texte tout autour, et il y avait les paroles paroles de Coolio. Il y avait aussi le Under the Bridge des Red Hot, dont j'étais très très fan. C'était le morceau des Red Hot que je connaissais et que j'aimais. Voilà. Et je me souviens aussi que je refaisais la typo manuscrite qu'on voit dans le livret. Tu nous en parleras peut-être tout à l'heure, Fanny. Ils ont une typo, ils utilisent des flèches, des petits segments, etc. Ils ont quelque chose de manuscrit que j'essayais de reproduire, moi, à mon tour. Et voilà, je me souviens de tout ça. Je me souviens aussi que ma prof d'anglais, je lui avais soumis l'album pour qu'on puisse étudier un texte en cours de quatrième.
Elle... my kiss.
Je lui ai dit, ouais, Under the Bridge, c'est trop bien, et tout, et tout, et tout. Le lendemain, elle était venue me voir en me disant, non, en fait, non, les paroles, ça va pas le faire. Voilà, mais si t'as autre chose, éventuellement. Et voilà, ça s'est terminé à l'époque par Alanis Morissette. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'on puisse étudier ce morceau des Red Hot. Mais, peut-être que ce soir, c'est en fait l'occasion de se replonger dans cet album et dans cette chanson.
Tout à fait.
Donc c'est un petit rêve qui se réalise. Donc on va maintenant revenir sur un peu en arrière. Hein, on va revenir sur la genèse d'un groupe à la géométrie variable, Olivia.
Alors, quand on leur demande aujourd'hui à quand remonte la création des Red Hot, ils répondent quelque part entre la fin des années 70 et le début des années 90. C'est précis. Hein. Ils se souviennent aussi que pour leur premier concert, ils n'avaient qu'un seul morceau à jouer. Mais ce qui les distingue déjà des autres, c'est cette énergie complètement folle et incontournable, comme si, je cite, ils étaient assis sur le cratère d'un volcan en éruption qui les avait mis sur orbite.
Waouh !
Tout commence à la fin donc des années 70 à Fairfax High School de Los Angeles, avec la rencontre de Michael Balzari, originaire d'Australie, qui adopte un peu plus tard le surnom de Flea, qui donc signifie puce, en hommage au musicien d'afrobeat Fela Kuti, et d'Anthony Kiedis, fils du comédien Blackie Dammett. Flea fréquentait également un batteur, Jack Irons, et un guitariste en provenance d'Israël, Hillel Slovak. On va écouter une de leurs toutes premières démos, elle s'appelle « Out in L.A. ».
My mind blaze. For me it's a race. You're a cotton picking maze. For you it's a chase. But I lose you in the haze. And now you spend your days catching waves and you check to go out. The town makes me jump. I've got a bunch of bad tricks. Well sure it's got some chunks, but I still get my kicks. My body loves to scrum. When I lick the right picker like a thumb on a thumb. Popping her bum, pump, pop out.
C'est génial, t'as déjà la guitare slappée, t'as déjà un flow.
La basse.
Alors la basse
la
slappée
basse
plutôt.
La basse est dingue.
Oui, ouais. Je dis quoi, la guitare
ouais.
La guitare basse, ça vous va?
La guitare basse slappée. Je t'en sors bien.
Et puis t'as ce flow, t'as ce truc hyper hip-hop, ouais. On est en 84, à l'époque t'as quoi? T'as Grandmaster Flash, t'as tous ces trucs-là.
Run DMC.
Run DMC, ouais.
Un peu 84, ça. Mais c'est des darons les Red Hot en fait alors.
Bah ouais, c'est un peu des darons, ouais, carrément.
Alors, les premiers albums leur assurent une jolie notoriété dans le monde du rock californien, mais ils attendent encore la consécration. Avant de vous raconter le carton de Blood Sugar en 91, il faut revenir deux albums en arrière.
On est en 87, les Red Hot Chili Peppers enregistrent The Uplift Mofo Party Plan. Quelques mois plus tard, pendant leur tournée, Hillel Slovak meurt d'une overdose. Irons part en dépression et quitte le groupe, ils sont au bord du gouffre. Il ne reste donc plus que Kiedis au chant et Flea le bassiste, qui décide malgré tout de continuer. Quelques mois plus tard, fin 88, ils se lancent avec John Frusciante à la guitare et Chad Smith à la batterie. L'influence de Frusciante sur le son des Red Hot va rapidement se faire ressentir. Il privilégie les mélodies et les harmonies au rythme.
Et juste, faut préciser qu'à ce moment-là, quand il le recrute, Frusciante, il a 18 ans.
Ouais, c'est un bébé. Hein,
c'est une bête de la guitare, quoi.
Ce qui va vraiment devenir la signature du groupe et permettre à Mother's Milk, sorti en août 89, d'être le premier grand succès commercial du groupe.
We'll be right back.
c'était Higher Ground sur l'album Mother Milk. On est en avril 90, après 7 ans de contrat chez EMI, une clause leur permet de changer de label. Après avoir vendu 500 000 copies de Mother's Milk, en quelques mois à peine, tout le monde veut signer les Red Hot. Alors les enchères démarrent avec entre Warner et Sony BMG, qui vont se battre sans merci. Sony va même jusqu'à leur offrir 1 million de dollars. Beaujoueur, le patron de la Warner, les appelle pour les féliciter, même si c'est chez un concurrent. Et il semblerait que ça fasse la différence, puisque n'ayant aucune nouvelle de Sony pendant plusieurs semaines, ils reviennent sur leur décision et décident de s'engager avec la Warner.
Le coup de théâtre.
Alors, Sony, le seum.
Tiens, prends ça, Sony. À sa sortie en septembre 91, Blood Sugar Sex Magik est bien accueilli par la presse et devient très vite un gros succès commercial.
Bah, l'album se place au top des ventes de plusieurs pays, dont les États-Unis, où il est certifié septuple disque de platine.
Septuple, waouh.
Il prend aussi la tête des charts en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Après quelques hésitations, Give It Away est choisi comme premier single et sort quelques semaines avant l'album. Le single a d'abord été mis de côté par plusieurs radios qui lui reprochent son manque de mélodie, mais c'est grâce à la célèbre radio Los Angeles, Crox, que le titre a pris son envol et que le clip a tourné en boucle sur MTV. Ça devient vraiment la grosse folie. On écoute une interview de Flea, le bassiste, donc, qui en parle beaucoup mieux que moi.
J'ai eu le sentiment qu'on atteignait une sorte d'apogée créative avec Blood Sugar Sex Magik. Tout s'est emballé. Notre célébrité grandissait progressivement depuis quelques années, à force de travail et de tourner dans le monde entier. Mais plusieurs chansons de cet album ont été des tubes et le groupe est devenu un poids lourd du rock.
Il faut choisir un deuxième single. Le groupe ne pense pas qu'Under the Bridge soit le titre adéquat. C'est plutôt une chanson triste, elle évoque les problèmes de drogue de Kiedis. Mais lors d'un concert auquel assistent plusieurs représentants de Warner, Kiedis rate le début de la chanson et c'est le public qui reprend les paroles instantanément. Super gêné par sa prestation, il s'excuse ensuite auprès des producteurs qui lui répondent « Raté, tu plaisantes, tout le monde connaissait la chanson par cœur, c'est notre prochain single ».
Alors Under the Bridge sort le 10 mars 92 du coup en single et entre directement à la deuxième place du Billboard et relance les ventes de l'album.
Blood Sugar Sex Magik dépasse ainsi le million d'exemplaires vendus aux USA le 1er avril 92. L'album se vendra finalement à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde. Des ventes mais aussi des récompenses. Au MTV Video Music Awards en 92, les Red Hot sont nommés dans 6 catégories pour Give It Away et dans 3 catégories pour Under the Bridge. Ils en reportent 3, vidéo la plus révolutionnaire et meilleure direction artistique pour Give It Away et choix des téléspectateurs pour Under the Bridge. Puis, lors des Grammy Awards, ils obtiennent le prix de la meilleure prestation hard rock pour Give It Away.
Applaudissements quand même, c'est pas mal hein.
Bravo.
Ouais, c'est bien. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, c'est assez marrant, ils font vraiment n'importe quoi. Ils arrivent, ils sautent, ils miment une fellation, ils se foutent à poil, ils s'emmerdent les uns les autres, c'est des gosses quoi que t'as lâché, c'est hyper marrant. Et tu disais ça, mais les Red Hot effectivement c'est un super groupe de live et ils vont entamer derrière la tournée Blood Sugar Sex Magik et ça va s'avérer être très très mouvementé.
Alors, en effet, ils partent en tournée à travers le pays avec Pearl Jam et The Smashing Pumpkins.
L'affiche de rêve, putain.
Bah ouais.
Incroyable.
On aurait tous réveillé. Mais ça va pas du tout se passer comme prévu. Leur popularité grandissante rend Frusciante, donc le guitariste, malheureux. Il commence à porter un regard de plus en plus cynique sur leur succès et tombe rapidement en dépression. Il devient même paranoïaque et complètement imprévisible. Il va se battre avec Kiedis qui l'accuse de ne pas respecter le public. Il y aura même un moment très très compliqué lors du Saturday Night Live. Dès leur arrivée dans les studios à New York, Frusciante s'engueule avec l'équipe de l'émission et menace de ne pas faire le show. Puis, pendant le direct, alors qu'il débute Under the Bridge, Frusciante sabote le morceau pour que Kiedis se plante. On va écouter ce morceau, c'est un peu douloureux.
Once again,
the Red Hot Chili Peppers. Right.
I don't have a partner.
ça fait un peu mal. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est douloureux.
Moi, je trouve que ça va, ça passe, franchement. Moi, je trouve qu'on y voit que du feu. Voilà,
Ah non, non, non.
T'es devant des millions de téléspectateurs.
Effectivement, c'est un peu iconoclaste, mais...
c'est ton côté Sonic Youth.
Ouais, c'est ça, c'est mon côté... j'aime le noise. Non, franchement,
le
ça,
sale.
Moi, je trouve que ça va.
D'ailleurs, dans son autobiographie, Anthony Kiedis, qui s'appelle donc Scar Tissue, Anthony Kiedis raconte ce moment un peu compliqué.
Nous étions à la télévision en direct devant des millions de personnes et c'était de la torture. Je n'avais aucune idée de la chanson qu'il jouait ou de la tonalité dans laquelle il se trouvait. J'avais l'impression de me faire poignarder dans le dos et de me faire ridiculiser devant toute l'Amérique pendant que ce gars était dans un coin, dans l'ombre, jouant une expérimentation désaccordée et dissonante. J'ai pensé qu'il l'avait fait exprès, juste pour me faire chier.
Donc, on sent l'ambiance.
ambiance.
Malgré tout, la tournée continue et le succès est là. Les promoteurs souhaitent d'ailleurs un groupe plus important que Pearl Jam pour jouer en première partie. Kiedis suggère Nirvana, qui accepte. Mais les Smashing Pumpkins claquent la porte de la tournée, Billy Corgan refusant d'être associé à Nirvana puisque Kurt Cobain est en couple avec Courtney Love, qui n'est autre que son ancienne petite amie.
C'est
coucherie du rock
c'est
américain.
Grave.
Après quelques dates, fin 91 avec Nirvana, donc, ils se produisent en Europe sur les premiers mois de 92 avant de poursuivre au Japon début mai. Frusciante quitte définitivement le groupe et ils sont obligés d'annuler les dates suivantes. C'est finalement Dave Navarro, le guitariste du groupe Jane's Addiction, qui les rejoindra quelques mois plus tard et qui restera jusqu'en 98 avant d'être à nouveau remplacé par... John Frusciante.
Le retour de John Frusciante. Merci Olivia, c'est vrai que ce disque marque la fin d'un cycle pour les Red Hot. Pour beaucoup de fans, c'est leur meilleur album et c'est aussi le plus abouti avant le grand virage pop de Californication dont tu parlais tout à l'heure, Fanny. C'est aussi une grosse influence Blood Sugar Sex Magik pour le monde du hip-hop et du néo-métal. Je pense notamment à Dr. Dre ou à Limp Bizkit qui les cite régulièrement en interview. Moi aussi, ça me fait penser à... Il y a un parallèle un peu à faire entre les Red Hot et Nirvana, cette gestion du succès. Là, on voit qu'ils ont réussi à se remettre en selle et faire quelque chose d'autre. Là où Nirvana s'est arrêté brutalement, on n'a jamais compris pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Après
c'est
la
pas
mort
vrai.
De Kurt Cobain,
c'est
tu peux
vrai.
Dire.
Après Nevermind, quand même, ils ont fait des albums, quand même.
Comparaison foireuse.
Unitéro,
c'est un nom, c'est un 0 sur 10.
Ils ne sont pas allés très loin, mais il y a eu des albums après qui étaient super bien.
Ok, bon, bah écoute, je remballe.
Tu sors, Manu.
Je remballe.
Presque.
On va maintenant parler des coulisses de l'enregistrement avec toi, Grégoire.
Oui.
Des coulisses de ce Blood Sugar Sex Magik, de l'aveu même d'Anthony Kiedis, c'est la session d'enregistrement la plus merveilleuse de la carrière des Red Hot.
Oui, car les Red Hot font le choix cette fois de ne pas retourner en studio pour ce cinquième album, mais d'aller vivre dans un manoir sur les hauteurs de Los Angeles. Un manoir qui aurait appartenu au magicien Houdini et évidemment réputé hanté. Ça devrait vous rappeler les conditions d'enregistrement du OK Computer de Radiohead dont on a parlé dans Radio Cassette. Là encore, une histoire de manoir hanté. Ça sent le bon coup marketing tout ça. Mais cela n'empêchera pas le producteur de l'album, Rick Rubin, de faire l'acquisition de cette modeste bicoque d'une dizaine de chambres et qui verra défiler dans les 90s Marilyn Manson, System of a Down ou encore Jay-Z. Après une longue période de composition, l'enregistrement de Blood Sugar Sex Magik se déroule sur un mois environ, un mois au cours duquel les musiciens vont pouvoir se concentrer uniquement sur leur musique. Écoutez ce qu'en disait le chanteur Anthony Kiedis dans un documentaire de MTV.
L'un de nous a émis l'idée d'enregistrer l'album dans une grande maison et on l'a trouvé bonne, parce que ça nous évitait d'entrer à nouveau en studio, où l'ambiance te pousse souvent à faire des fixettes complètement stériles. Dans une maison, on pouvait créer notre bulle pour composer et y vivre à plein temps, comme une sorte de camp d'enregistrement. Pas d'heure fixe, pas de distraction. On pouvait se focaliser sur notre but, à savoir enregistrer le meilleur disque de la Terre.
Et si vous voulez en savoir plus sur cette session d'enregistrement, vous pouvez aller voir le documentaire Funky Monks. On y voit les Red Hot en pleine création et on peut notamment y entendre la première version de Soul to Squeeze qui devait apparaître sur l'album et qui finalement sortira 2 ans plus tard.
To God.
Et Grégoire, cette session, elle se déroule aussi dans un contexte de changement pour le groupe.
Oui, changement de label, Red Hot quitte EMI pour Warner, et puis changement de producteur avec, on en a déjà parlé, l'arrivée de Rick Rubin, le début d'une collaboration fructueuse puisque ce dernier produira tous les albums du groupe jusqu'en 2011 avec I'm With You. En réalité, ce pionnier du hip-hop à la longue barbe de biker, cofondateur du label Def Jam, avait déjà été sollicité par les Red Hot plusieurs années auparavant. Il les avait vus en concert, il les trouvait extraordinairement bons, mais il n'a pas voulu bosser avec eux à l'époque à cause de leur consommation excessive de stupéfiants et de la mauvaise énergie, je cite, hein, qui circulait à l'époque au sein du groupe. Rick Rubin, c'est un maître. Avant les Red Hot, il a produit Public Enemy, Beastie Boys, Run DMC, Slayer. Difficile de trouver un choix plus judicieux pour ce Blood Sugar Sex Magik qui fusionne rap, funk et rock. D'ailleurs, les membres des Red Hot ne tarissent pas d'éloges sur lui et le considèrent comme le grand artisan de leur succès. On va entendre Flea, John Frusciante et Anthony Kiedis.
Parfois, il nous proposait de faire des trucs dingues auxquels on n'aurait jamais pensé. Il nous faisait jouer la fin d'un morceau au début. On lui disait « ça va pas, c'est la fin ». Alors il nous a fait promettre de tout essayer et on a accepté. Et le résultat est excellent. Rick s'enthousiasme pour tout. Si tu lui dis « on va faire que 10 chansons », il te répond « c'est génial ». Mais on en a écrit 40. C'est génial. Rick, on reprend tout à zéro. C'est génial.
Il sait très bien te rassurer. C'est ce que je préfère chez lui.
Il arrive à avoir une vision globale. C'est sa grande force.
Non mais la voix du mec de MTV quoi.
Et Rick Rubin, moi j'en avais entendu parler dans l'épisode 3 de Hip Hop Evolution, qui est une série excellente sur l'histoire du hip hop sur Netflix. Et il y a un épisode qui brosse son portrait avec les Beastie Boys et son rôle. C'est lui qui fait la fusion entre le rock et le rap avec Run DMC, Walk This Way avec Aerosmith. C'est oufissime, ce mec est énorme.
Ouais, c'est un peu le papa de ce son-là, en fait, quoi, de ce son qui a cartonné au début des années 90, de la fusion, quoi, qui a eu beaucoup de succès. Ça a été assez rapide, finalement. Mais c'est vrai que c'est vraiment lui qui est à l'origine de ce son-là.
Carrément, tu vois que c'est vraiment un nom qui revient tout le temps. Alors, ce disque, c'est aussi un tournant sur le plan musical pour les Red Hot.
Oui, c'est un disque beaucoup moins axé sur les jam sessions et l'improvisation. Il y a une attention particulière à la structure des morceaux et surtout la palette musicale du groupe va considérablement s'élargir. C'est un disque bourré d'influences qui vont du hip-hop au funk instrumental, des meters, en passant par la pop, le blues et le rock 70s, comme en témoigne cette ambiance pastorale à la Led Zeppelin sur Breaking the Girl, un morceau où la guitare acoustique fait une première apparition dans la discographie des Red Hot.
Et alors Greg, pour nous faire bien comprendre toute la créativité et le talent des Red Hot, tu nous proposes de nous décortiquer le premier single de l'album « Give It Away ».
Ouais, un super morceau hein, qui naît à l'origine d'une ligne de basse, Flea, qui avait souvent tendance à en rajouter sans doute l'influence du jazz. Il faut savoir que Flea, c'est aussi un trompettiste émérite. En fait, sur les conseils de Rick Rubin, il va simplifier son jeu, moins de slap, moins de notes, et c'est tant mieux. Et voici ce que ça donne. À cela, vous ajoutez la guitare, qui en quelque sorte effectue un mouvement opposé. La basse descend avec ce long slide se glisser vers le bas du manche, tandis que la guitare monte. Côté guitare, on peut aussi relever ce solo de John Frusciante en reverse, c'est-à-dire que le son a été inversé en post-production. Et puis si le titre est aussi entraînant, c'est également grâce à la voix d'Anthony Kiedis, très compressée, très sèche, très percussive, notamment à cause des syllabes utilisées pour les paroles.
Give it away, là. Ah, j'adore.
Remarquez aussi comment il module sa voix pour la faire légèrement monter vers les aigus, ce qui ajoute un peu plus de tension au morceau. What I got to give it to your mama. What I got to give it to your papa. What I got to give it to your daughter. You do a little dancing and you drink a little water. What I got to get it, put it in you. What I got to get it, put it in you. What I got to get it, put it in you. Feeling with the feeling, don't stop, continue.
Je comprends que dalle. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc je comprends ton yaourt, Olivia.
Non, il parle du doc à un moment. Ouais, c'est ça. C'est le doc de Doc Kelly.
Doc Gynéco.
Ouais.
Et enfin, il y a sans doute un instrument qui a dû complètement vous échapper, mais c'est normal. C'est la présence d'une guimbarde sur le refrain qui vient soutenir rythmiquement l'ensemble du morceau. Vous noterez aussi le riff de clavier qui ponctue les couplets. On écoute. Et voilà, puis à tout ça, vous ajoutez la batterie bien lourde de Chad Smith et ses coups de cymbales au perché, et ça donne ça.
Il rend ouf ce morceau.
Et ça donne le générique de Automoto sur M6. Je vous jure, c'était vraiment utilisé. Réécoutez ce magnifique générique, vous retrouverez les Red Hot évidemment. Alors moi j'avais tout Greg, sauf la guimbarde, j'avoue là,
guimbarde, c'est le petit truc en plus qui
les a amenés vers le succès.
Parfois
absolument.
Ça joue à rien, ça pourrait une guimbarde, un triangle. Voilà.
Un didgeridoo.
Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un effet didgeridoo aussi, ouais. Ça donne cet effet-là, ouais. Exactement.
Bon, et Grégoire, il faut évidemment qu'on parle d'Under the Bridge, un titre qui au départ ne devait même pas figurer sur l'album.
Oui, en fait, à l'origine, Under the Bridge, c'est un poème écrit par Anthony Kiedis. Sous le pont est une allusion à un rendez-vous de toxicomane situé sous un pont dans un parc de Los Angeles, un endroit où Kiedis, et l'ancien guitariste et compositeur du groupe, Hillel Slovaque, venait se fournir en dope. C'est Rick Rubin qui va convaincre Kiedis de lire le texte aux autres membres du groupe. Au début, le chanteur n'est pas très chaud, le texte est très personnel et fait référence à la mort de Slovaque, décédé d'une overdose seulement 3 ans auparavant, un traumatisme encore bien ancré dans les esprits des membres originels du groupe. Musicalement, Under the Bridge traduit bien l'évolution musicale du groupe vers des morceaux plus pop et structurés. John Frusciante montre ici tout l'étendue de son talent avec ce riff de guitare vaguement inspiré du titre Andy Warhol de David Bowie. À noter que c'est la mère du guitariste et le cœur de sa paroisse qui offre ce final grandiose à ce morceau qui va, on peut le dire, lancer la carrière et le succès international des Red Hot Chili Peppers.
Merci Grégoire pour ce tour complet de la prod. On part maintenant découvrir l'univers visuel des Red Hot, l'archétype du groupe cool et tatoué. On commence par quoi, Fanny ? On commence avec la pochette ?
Bah oui, si tu veux. Alors aujourd'hui, on va parler d'une pochette assez culte et avouons-le, assez ringarde. Bon, il faut dire qu'à ce moment-là de leur carrière, les Chili ont déjà sorti 4 albums aux pochettes toutes plus chum les unes que les autres. Le visuel de Mother's Milk qui sort un petit peu du lot et on retrouve d'ailleurs quelques similitudes, c'est-à-dire une composition en noir et blanc décorée de roses rouges. Alors sur la pochette de Blood Sugar Sex Magik, on voit dans chaque coin le visage de profil d'un membre du groupe entouré de photos de roses. Les quatre hommes tirent la langue, sauf qu'à la place de cette langue, on a un dessin barbelé qui vient s'entremêler au centre de la composition pour créer un gros motif tribal. On est ici en plein dans l'univers du tatouage et le dessin de la pochette a d'ailleurs été réalisé par le tatoueur néerlandais Henk Schiffmacher, plus connu sous le nom de Henky Panky.
Ah ouais, ouais.
C'est vrai qu'il parle d'un mafieux.
C'est clair.
Alors, je replante le décor. On est à Los Angeles avec un groupe né au milieu des années 80, c'est-à-dire en pleine vague punk. LA, c'est alors l'endroit où s'agrège un grand nombre de sous-cultures, le surf et le skate dont j'ai parlé dans l'épisode sur Ben Harper, le graphe, le tatouage et évidemment les scènes musicales underground. En 1989, le fondateur du zine punk Search and Destroy publie la revue Modern Primitivism, qui est considérée comme la bible du tatouage et des modifications corporelles. Dedans, on retrouve notamment le fameux tatoueur Henky Panky, qui est l'auteur du grand oiseau-tonnerre amérindien qu'on peut voir dans le dos d'Anthony Kiedis et de ses manchettes tribales. Ce qui est indéniable, c'est que la sortie de cette revue, puis de cette pochette d'album, ont contribué à démocratiser le tatouage auprès des jeunes, alors qu'il était pendant longtemps l'apanage des marins et des repris de justice. Quand on a des rockstars comme Flea et Kiedis, qui n'ont pas l'air d'avoir de t-shirt ou de chemise dans leur garde-robe, et qui trimballent leur cœur tatoué sur toutes les scènes du monde, forcément, ça a un impact. Donc cette pochette, aussi ringarde soit-elle aujourd'hui, c'est un putain de morceau de culture populaire, c'est l'emblème de toute une époque.
Attends, c'est ouf cette histoire, moi je savais pas du tout. Et tu ne parles pas de la rose au centre de la pochette. En fait, elle est le symbole de quoi ? Est-ce que c'est... Moi je pense que c'est une vulve, c'est l'amour, c'est quoi ? C'est l'innocence ? Moi, perso, j'y vois un méga cunnilingus, mais c'est peut-être parce que je suis obsédé.
Alors désolé Manu, je n'ai rien trouvé sur la symbolique de la rose dans cet album, mais avec la moitié des chansons qui parlent de cul et ce gros lover d'Anthony Kiedis aux manettes, il y a fort à parier que t'as raison, ouais. Donc bref, en dehors du dessin d'Henky Panky, on trouve aussi une personne que j'adore à la direction artistique de l'album, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du réalisateur Gus Van Sant. C'est lui qui prend tous les beaux portraits en noir et blanc et les détails des tatouages des membres du groupe qu'on voit à l'intérieur de la pochette, aux côtés des paroles des chansons écrites à la main par Kiedis. T'en parlais tout à l'heure,
bah voilà.
Ça tu recopies dans ton agenda.
Oui.
Et ouais. En 1991, la même année que l'album Blood Sugar, sort sur les écrans My Own Private Idaho, film de Gus Van Sant avec les jeunes stars montantes d'Hollywood, River Phoenix et Kenny Reeves. J'ai un petit peu chaud en prononçant ce nom. Film dans lequel Flea fait une apparition. Pour la partie morbide, quand River Phoenix meurt d'un arrêt cardiaque en 1993, il est accompagné de Flea qui venait voir sur scène et le cocktail de coke et d'héroïne qui lui sera fatal, ce n'est autre que John Frusciante qui lui fait boire.
Bah cool, ouais. C'est sympa tes anecdotes, ouais, Fanny.
Tu veux qu'on perde... qu'il aille pas bien après, qu'il fasse de la merde sur Under the Bridge.
Tu veux qu'on perde tous nos auditeurs, c'est ça?
Bah désolé, non, mais je fais qu'énoncer des faits d'une autorité publique. Il y a beaucoup d'histoires de drogue dans l'entourage des Red Hot. On l'a dit, la moitié des musiciens de la première mouture du groupe sont morts. Donc, je vous invite... Désolée. Je vous invite à écouter les deux épisodes du super podcast Recoversion dédié à John Frusciante. Vous comprendrez un peu mieux de quoi je parle. Bref, revenons à Gus Van Sant, puisqu'il ne se limite pas à la direction artistique de l'album. Il signe aussi la réalisation du clip d'Under the Bridge. Flea considère que c'est grâce à ce clip diffusé en boucle sur MTV que le groupe est passé de l'ombre à la culture mainstream. On y voit un mélange de plans ésotériques tournés en studio avec des surimpressions de paysages étoilés par-dessus le visage des musiciens et des plans réalistes tournés à travers la ville de Los Angeles. Si ce clip est plutôt cool, et malgré toute l'affection que j'ai pour Gus Van Sant justement pour tous ses liens avec le rock US indépendant, je dois reconnaître que ça n'arrive pas à la cheville de THE vidéo de l'album, selon moi, un ovni filmique complètement dingue et génial tourné pour le single Give It Away. Dans son autobiographie Scar Tissues, Kiedis raconte le contexte de ce clip.
J'ai regardé des bandes démos de réalisateurs encore et encore, mais rien ne me semblait assez bon. Tout se ressemblait, de la merde ennuyeuse, homogénéisée et artificielle. Finalement, je suis tombé sur le clip d'un groupe français signé par un réalisateur nommé Stéphane Sednaoui. J'ai été époustouflé par cette vidéo, vraiment unique en son genre.
Alors la vidéo en question, c'est Le Monde de Demain de Supreme NTM, effectivement excellente et avec laquelle on trouve pas mal de points communs, comme le noir et blanc, un montage nerveux avec une grande variété de plans et cet aspect très graphique. Pour le clip des Red Hot, Stéphane Sednaoui décide de localiser l'action dans un paysage de désert afin de garder l'attention sur les membres du groupe coupés de toute référence extérieure. Il va recouvrir leur corps de peinture argentée et les habiller de fringues exubérantes. Et c'est là que la magie opère. De l'aveu de Sednaoui même, les musiciens jouent le jeu au-delà de ses espérances. Leur attitude, leur sens du spectacle et leur énergie de dingue font de ce tournage en grande partie improvisé un énorme succès.
Il y a un côté freak show un peu dans ce clip, je trouve.
Mais complètement ouais. Lâché, complètement exubérant. Ouais, ouais, ouais. Il y a une énergie folle. Enfin, j'adore le regarder. Ouais. Dans l'ensemble, la vidéo de Give It Away est une personnification du morceau qui est super entraînant. On a de nombreuses techniques filmiques qui viennent toutes souligner des particularités de la bande-son. On a des plans en grand angle, en contre-plongée, des surimpressions, des split-screens, des jeux de lumière. À un moment, on voit John Frusciante danser avec un ruban. Et pile à cet instant de la chanson, les Red Hot utilisent une technique qui s'appelle le backmasking, comme l'évoquait Greg tout à l'heure, c'est-à-dire que le son est enregistré à l'envers sur la piste. On entend la batterie de Chad Smith à l'endroit et simultanément, on entend la guitare de Frusciante à l'envers. Mais le truc génial, c'est que Stéphane Sednaoui va reprendre le même principe dans le clip puisqu'à l'écran, ce court plan avec la danse du ruban est filmé en marche arrière.
Putain, c'est Tenet avant Tenet le film en fait.
C'est énorme. Bref, cette vidéo qui aura coûté dans les 140 000 dollars à produire, c'est pour moi l'une des plus incontournables du début des 90s et surtout, elle s'inscrit dans cette mode que j'ai déjà évoquée avec les clips tournés dans le désert. Souvenez-vous, Say You'll Be There des Spice Girls, California Love de Tupac. Je sais pas si c'est l'héritage de Mad Max ou quoi, mais on est clairement dans une iconographie typiquement californienne.
Il y a un côté Burning Man un peu en fait.
Ouais, c'est vrai.
Et puis il devait y avoir aussi un côté simplement pratique, c'est-à-dire qu'il suffit de quitter LA, il était assez rapidement dans le désert
oui,
en fait.
Oui, c'est vrai.
Ouais, mais en fait, quand il pense, il y a tellement de clips regroupés sur peu d'années qui se situent au même endroit.
On a beaucoup parlé de Los Angeles
ouais,
aussi
c'est
cette émission.
Et puis c'est l'âge d'or du vidéoclip aussi. T'avais de la thune pour faire des super vidéoclips à ce moment-là. Et puis t'avais MTV, c'était quand même la chaîne du vidéoclip.
Et voilà, et je voulais terminer cette chronique en citant un couplet du morceau Give It Away qui dit « There's a river born to be a giver, keep you warm, won't let you shiver, his heart is never going to wither. » Il y a river, né pour être un donneur, vous gardez au chaud, ne pas vous laisser frissonner, son cœur jamais ne va faner. Et voilà, je vous le donne dans le mille, la rivière, ou plutôt le river dont il est question dans cette chanson, c'est leur copain River Phoenix, le frère de Joaquin, un des nombreux talents brisés des 90s.
Mon petit chat.
Parti trop tôt.
Petite ange partie trop tôt. Alors, c'est le moment maintenant de faire le bilan de Blood Sugar Sex Magik.
Calmement.
Alors, je vais vous demander votre avis. C'était comment de réécouter cet album. On va commencer par toi, Grégoire.
Bah, évidemment, beaucoup de plaisir. Ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas écouté. C'est un album qui est rythmiquement fast. C'est-à-dire que il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Il y a ce côté un peu...
C'est généreux.
C'est généreux. Il y a 17 titres.
C'est bordélique.
Il y a ce côté bordélique, iconoclaste, ce côté, comment dire, baroque, j'ai envie de dire. Je l'ai déjà dit, non ?
Non, c'est bon.
Je l'ai pas dit.
Okay,
ça passe. Moi, je dirais même
presque un peu...
jouisseur.
Oh !
Jouisseur.
Olivia, tu dis quelque chose.
Exubérant. alors, c'est pas aussi délirant qu'un album de Frank Zappa, mais il ouais, y a ce côté vraiment foutraque que j'aime beaucoup. C'est très joyeux, c'est sexy aussi. Il pue le sexe aussi, quand même, cet album. Et voilà, bah, ça a été quand même beaucoup de plaisir. Alors, je suis pas... le dernier tiers de l'album, bon, il tire un peu sur la corde, c'est avec 17 titres. Aujourd'hui, ça nous semble quand même, voilà, c'est un album très long. Mais il y a plein de super morceaux, j'ai pas eu le temps forcément d'en parler dans ma chronique, mais Funky Monks, Suck My Kiss, voilà, c'est des morceaux très, très fun, très chouettes. Et bon, même si c'est vrai que ce mélange funk, rap, rock est un peu daté, c'était quand même pas mal de plaisir, beaucoup de plaisir de le réécouter, ouais, carrément. Yeah. Et puis surtout, c'est des musiciens de malade.
Ouais, ouais.
C'est des musiciens incroyables. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'ils font, c'est assez admirable. Et moi, personnellement, le virage pop des Red Hot après Blood Sugar Sex Magik, bah, pour moi, ça a été fini. Quoi. Déjà, le groupe est devenu trop connu. Il faut dire qu'en France, quand l'album est sorti, c'était pas non plus le truc numéro un. C'était numéro un aux États-Unis, certes, c'était numéro un chez les anglophones, mais pas du tout en France. Ça a mis beaucoup plus de temps. Et c'est surtout à partir de One Hot Minute, de Californication, qu'ils ont vraiment explosé, que c'est devenu ultra connu, commercial. Mais Blood Sugar Sex Magik, franchement, mais personne, enfin, pas personne, mais peu, c'était pas mainstream non plus, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que les Red Hot, c'était mieux avant, Grégoire?
je fais un peu partie de ces fans-là, où du coup, voilà, le virage trop pop m'a un peu saoulé, et aussi tout le monde connaissait. Évidemment, personne n'avait écouté Blood Sugar Sex Magik, et je méprisais ces gens pour ça.
T'étais déjà snob.
Grégoire,
il avait 12 ans, il était déjà snob.
J'étais déjà snob. Mais donc, ouais, chouette réécoute, c'était cool.
Ok. Fanny, Olivia.
Moi, chouette écoute tout court pour la première fois. Hein, cet album, je ne le connaissais pas du tout. Comme je disais, quand j'étais ado, j'ai découvert à partir de Californication. Et vu que je n'ai jamais été fan des Red Hot, je ne me suis jamais penchée sur ce qu'ils avaient pu avoir avant dans leur carrière. Donc, je ne savais même pas qu'ils étaient de Los Angeles. Enfin, je ne savais basiquement rien sur eux. Là, il y a évidemment des trucs qui m'ont plu, ce côté fusion à la Face No More, un peu du chant parfois à la Rage Against the Machine, sauf que j'aurais préféré entendre Zach de la Roca à la voix. Mais non, il y a eu des bonnes découvertes pour moi. Il y a quelques morceaux qui m'ont énormément plu, justement le titre éponyme Blood Sugar Sex Magik, j'ai beaucoup aimé, et la balade aussi I Could Have Lied qui a écrit en hommage à sa love story avec Sinead O'Connor. Ça, c'est un petit truc que j'ai appris.
Encore
justement.
Des histoires de couches.
Ouais, j'adore. ouais, c'est Paris Match en fait. Vas-y, raconte l'anecdote, vas-y, t'en mords
d'envie. En courant la biographie Scar Tissues, dont je cherchais le passage sur Blood Sugar, et Kiddis raconte qu'il s'est fait briser le cœur par Sinead O'Connor. Et voilà, donc c'est
tout
de suite.
Pas trop de regrets aujourd'hui, non? Parce que bon, Sinead O'Connor, elle a fait une grosse sortie de route quand même. Hein.
Oui, je ne sais pas, je ne prononce pas sur la carrière de Sinead O'Connor.
Elle a un petit peu vrillé. Voilà.
Et bref, voilà, j'ai bien aimé découvrir. En termes de musique, ce n'est pas du tout ce que je préfère et je ne pense pas réécouter cet album en boucle. Mais c'était hyper intéressant de bosser dessus. Et c'était surtout hyper intéressant de regarder ce fameux documentaire Funky Monks, qui au début, j'avais du mal à rentrer dans la musique. Mais là, voir sur ce documentaire, les voir jouer, enfin décortiquer les morceaux qui du coup sont beaucoup plus dépouillés à l'oreille. Là, j'ai énormément aimé écouter tout ça. Et il y a une énergie folle et enfin ouais, franchement super. Yes. Toi, Olivia.
Et ben, un peu pareil. Écoute, je trouve que ça te donne une énergie incroyable quand tu écoutes cet album. Il y a un côté chien fou. Moi, j'ai adoré les revoir à l'époque. Leur petite gueule toute jeune à l'époque, ils sont complètement tarés. Alors, je trouve ça.
Qui dit, je trouve qu'il a une tête extrêmement dérangeante avec ses cheveux longs jusqu'aux fesses.
Ouais.
Et il a un visage de bébé, mais encore. Et le corps bodybuildé. Un bébé bodybuildé. Ça m'a beaucoup dérangé, je dois le dire. Voilà.
Ok.
Et toi, Manu?
Moi, c'est un album que j'ai bizarrement pas beaucoup écouté en fait à l'époque, donc j'étais content de pouvoir me replonger en fin de
Tu veux dire qu'en CE1, tu n'as pas poncé Blood Sugar Sex Magik?
En fait, moi j'étais bloqué sur Under the Bridge. Après, il y avait un peu Give It Away. Enfin voilà, j'avais acheté le maxi d'Under the Bridge dans lequel t'avais 2-3 tubes qu'ils avaient calé sur le 4 ou 5 titres. J'étais content avec ça, ça me suffisait si tu veux. Et puis, là j'ai bien pris une claque. Après, je pense que c'est mon côté un peu vieux, mon côté un peu papa, mais ça me fatigue parfois de temps en temps, tu vois. C'est un peu genre bruyant, alors bon...
Alors, je t'invite à regarder s'il est en version Rockababy, là.
Alors, elle fait référence, en fait, à cette série de comptines pour enfants, en fait, qui reprennent des albums et des titres cultes. Donc, tu peux avoir les berceuses, enfin, Radiohead en mode berceuse, Iron Maiden en mode berceuse, avec des petits Glockenspiel. Donc, voilà. Si vous êtes fan des Red Hot et que vous avez des enfants, faites-leur écouter, pourquoi pas, la version de Rockabye Baby que je vous recommande. Non, mais trêve de plaisanterie. Moi, j'ai trouvé ça hyper chouette. C'est un gros morceau quand même, donc de se faire tout l'album d'un coup, c'est un peu fatigant, mais pris indépendamment, c'est génial en fait. C'est bourré de tubes.
Ouais, mais je suis assez d'accord, effectivement. Il y a ce côté un peu lourdingue. Mais comme je crois qu'on avait dit la même chose de Rage Against the Machine aussi.
Ouais,
voilà, il y a un truc, il y a un truc un peu too much parfois. Ouais. Mais
c'est
voilà,
jeune
ça
chien
reste
fou,
c'est ce côté.
Exactement, ouais.
C'est des mecs, on les a lâchés sur scène. Il a fallu les canaliser. Je pense que leur période pop a permis ce truc-là. Mais au début, c'était taré, quoi. C'était vraiment quatre tarés, quoi.
Et on n'a même pas mentionné, parce que je parlais de Flea dans le film de Gus Van Sant, mais Anthony Kiedis, on le voit aussi dans Point Break.
Ah ouais?
Ah, je vois,
ouais.
Je savais
pas. Il joue
pas.
Quoi? Donc,
ouais. Il joue un surfeur?
Non, il fait un mec qui vient casser la gueule de Kenny Reeves un moment au bord de la plage, justement, où il surfe. Il joue une petite frappe de LA, ça lui va bien.
Okay. Putain,
bien
bon,
que
ça.
Ses biscottos lui servent à quelque chose. Bon.
On va pouvoir le remater, du coup. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. On avait envie de partager avec vous notre avis sur cet album avec le Cassette Crew, Fanny,
yes.
Grégoire,
yo.
Et Olivia.
Hey.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, partagez-le sur Twitter, Instagram et Facebook si ça vous a plu. Vous pouvez également carrément nous laisser un message sur notre répondeur cassette enregistreur téléphonique pour donner votre avis sur l'épisode ou nous raconter une blague, peu importe. Ça se passe au 07 61 36 84 15. Le numéro est dans la description. Ne zappez pas, on va écouter vos derniers messages dans quelques instants. Allez, on skip maintenant avec Under the Bridge, les petits chats.
Yes.
Gros bisous et cœur avec les doigts.
Bisous.
Ciao.
Bye bye.
À bientôt. I don't ever wanna feel
Hello, le Cassette Crew. J'adore votre émission qui me replonge dans les albums fondateurs de ma culture musicale. Mais des fois, il y en a qui font vraiment saigner les oreilles. Un Whitney, un Britney. Et l'autre qui rend ouf, comme ouf. All that she wants, she business, baby. She's got tomorrow. All that she wants, she business, baby. Yeah, yeah.